Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale Thomas Cluzel, bonjour. Et ce matin, ceci n'est pas une blague.
Oui, après les propos lundi dernier du président sud-coréen suggérant de donner à Donald Trump le prochain prix Nobel de la paix, nombre de quotidiens restent encore ce matin médusés, pour ne pas dire pétrifiés, quant à l'opportunité d'accorder une telle récompense au président américain. Quand le journal de Long Island, Newsday, juge utile de préciser que ceci donc n'est pas une blague, son confrère de la capitale, The Washington Post, préfère encore en rire et publie lui en avant-première ce qui pourrait ressembler, le cas échéant, au discours de remerciement de Donald Trump devant les membres du comité. Les haineux et les menteurs disent que je ne méritais pas ce prix, au prétexte que j'aurais bousculé le Premier ministre du Monténégro, confondu la Première ministre néo-zélandaise avec la femme de Justin Trudeau, admiré le corps de Brigitte Macron ou bien encore réécrit l'histoire de l'invasion de la Russie par Napoléon. Autant de fausses informations, sans compter que le plus important est donc que j'apporte la paix dans le monde. Non seulement je l'ai fait en traitant Kim Jong-un de petit gros, mais aussi en envoyant mes missiles intelligents sur la Syrie ou en dénonçant un accord nucléaire insensé avec l'Iran. Enfin, n'ai-je pas également rendu le transport aérien plus sûr en veillant à ce que les gens de Syrie, d'Iran, de Libye, de Somalie et du Yémen ne viennent pas nous rendre visite. Et d'ailleurs, je souhaite accueillir plus d'immigrants venus de Norvège. J'adore les Norvégiens. Après tout, pourquoi devrions-nous nous contenter seulement de gens issus de pays de merde? Enfin, j'ai reçu, vous le savez déjà, beaucoup d'honneurs. J'ai été élu président dès ma première tentative et j'ai fait la couverture du Time plus que n'importe qui d'autre. Bref, avec moi, vous battez, c'est sûr, tous les records.
Et l'on pourrait encore en rajouter avec le vent de révolte qui souffle désormais, Thomas, de plus en plus fort chez les enseignants américains.
Oui, Virginie Occidentale, Kansas, Kentucky, Oklahoma, Arizona, Colorado et bientôt peut-être la Caroline du Nord. Après les élèves, ce sont donc désormais les professeurs qui mènent la fronde dans nombre d'États républicains à travers le mouvement baptisé Red for Ed. Ils sont de plus en plus nombreux à réclamer non seulement des hausses de salaire, mais pas seulement, la défense aussi d'un enseignement public de qualité. C'est même le principal sujet de mécontentement des enseignants, raconte le Courrier International. Pour compenser les baisses d'impôts, l'enseignement public a en effet pâti d'une réduction drastique de moyens, au point que le budget de l'éducation est aujourd'hui plus faible qu'il y a 10 ans. Or, cette révolte des écoles n'est pas considéré aujourd'hui comme le prêchi-prêchat des élites prétentieuses des côtes Est et Ouest, mais gagne des États de l'intérieur qui tous ont voté Trump en 2016. En février de cette même année, Donald Trump en campagne avait déclaré « J'aime les gens peu instruits ». Et de fait, à maintes égards, celui qui entre-temps est devenu président n'est finalement que la dernière incarnation de cet anti-intellectualisme enraciné dans la politique américaine. Sauf que l'instruction est également perçue comme la clé du rêve américain et voilà pourquoi il n'est pas étonnant à une époque où les étudiants sont lourdement endettés, où les établissements scolaires sont le théâtre de massacres et où l'enseignement public souffre d'un manque chronique de fonds, que le dernier terrain de rébellion en date se concentre à présent directement dans la salle de classe.
Et il en est une justement qui apparaît aujourd'hui comme une mauvaise élève.
Oui, selon le dernier classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, il apparaît que la situation s'est détériorée en Europe plus que nulle part ailleurs dans le monde. Le cas le plus frappant est sans doute celui de la Bulgarie en 2006, un an avant son adhésion à l'UE, le pays partageait le même rang que la France. Et bien aujourd'hui, 11 ans plus tard, il a rétrogradé de la 35e à la 111e place. Mais que le pays se rassure, nuance aussitôt la Deutsche Welle, la Bulgarie n'a pas à craindre de remontrances venant de Bruxelles. Et pourquoi? Parce qu'elle présente des finances stables, un développement économique réjouissant et pratique une politique pragmatique en matière de réfugiés. La Slovaquie est elle aussi en chute libre dans le classement établi par Reporters sans frontières. Elle a perdu 10 places, qui au vu des récents événements, écrit le quotidien SME, paraît assez logique. L'assassinat du journaliste Jan Kuciak aurait même pu laisser attendre un rang bien pire encore. En revanche, lorsqu'on voit que des pays comme la Grande-Bretagne, la France ou les États-Unis arrivent après la Slovaquie, là on se demande quel crédit accorder à ce classement.
Et justement, nous reviendrons sur ce classement et sur la situation générale de la liberté de la presse en compagnie de Christophe Deloire aux environs de 8h20. Christophe Deloire est journaliste et également secrétaire général de Reporters sans frontières, liberté de la presse versus liberté narrative. Au Brésil, Thomas, les partisans de Lula appellent à boycotter une nouvelle série télévisée.
Intitulée « O Mecanismo, Paul Mécanisme. Cette production Netflix raconte l'enquête menée par un tandem de flics qui vont peu à peu mettre au jour un vaste système de corruption. Eh bien, évidemment, toute ressemblance avec l'affaire Petrobras qui a conduit à l'incarcération de l'ex-président Lula et à la destitution de sa dauphine Dilma Rousseff n'est pas complètement fortuite, sauf que la série, passée à la moulinette du site d'Arrêt sur Image, revendique des libertés narratives, d'où l'accusation lancée aujourd'hui par Dilma Rousseff elle-même, Netflix créateur de fake news. Et de fait, plusieurs éléments paraissent pour le moins discutables. Tout d'abord, une chronologie alternative. L'affaire Petrobras remonte aux années 90, lors de la mandature de l'ex-président Cardozo. Or, dans la série, l'affaire débute en 2003, c'est-à-dire sous la présidence de Lula. Et puis, il y a aussi ce passage du cinquième épisode. On y voit le personnage incarnant Lula s'entretenir avec son ex-ministre de la Justice et lui dire au sujet de l'enquête anti-corruption, il faut arrêter cette hémorragie. Alors cette phrase, tous ceux qui au Brésil ont suivi le scandale la connaissent, sauf qu'en réalité elle n'a pas été prononcée par Lula, mais par l'un de ses ennemis politiques. Et voilà comment les partisans de l'ancien président aujourd'hui derrière les barreaux en appellent désormais à boycotter Netflix.
Merci beaucoup Thomas Cluzel. Dans quelques instants, on revient sur les Black Blocs. Nous serons en compagnie d'un chercheur, Sylvain Boulou. Il est 7h30 sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil.